Bien, on continue l'étude des anciennes traductions de la Bible ce soir. Et nous arrivons aux traductions coptes. La langue copte est le dernier développement de la langue égyptienne des pharaons. Et elle est devenue et restée la langue de la chrétienté égyptienne. L'Égypte est un des pays qui a été les plus anciennement évangélisés, on le sait. Il y aurait certaines traditions qui font remonter l'évangélisation de l'Égypte à Saint Marc lui-même. En tout cas, elle était proche de la terre d'Israël et il est fort probable que l'Égypte ait été un des premiers pays qui ait été évangélisé. Et dès lors, donc, une traduction en langue qui peut être comprise par le peuple s'imposait. Et cette traduction, donc, est aujourd'hui encore la traduction officielle de l'Église copte. Bon, comme beaucoup d'églises orientales, les églises coptes, qui ne sont pas des églises chalcédoniennes, ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu les conclusions du concile de Chalcédoine, on contient des apocryphes. Et beaucoup des apocryphes, d'ailleurs, que nous connaissons, nous ont été transmis par les églises orientales. La traduction copte de la Bible a fait que la langue copte est restée une langue liturgique et une langue qui a encore aujourd'hui des lettres de noblesse, même si la majorité du peuple copte, évidemment, parle l'arabe, c'est-à-dire la société dans laquelle il se trouve être plongé. Il existe plusieurs dialectes coptes et il y a des traductions qui ont répondu justement aussi à ces différents types de dialectes. On ne sait pas exactement à quelle époque la traduction copte a été écrite. On a seulement des indices indirects qui nous sont donnés par des écrits gnostiques anciens. On sait que la gnose s'est particulièrement développée en Égypte. Et ainsi, on a un codex du IIe siècle qui évoque un certain nombre de références à une traduction en copte. On trouve aussi dans les écrits d'Athanase des références à saint Antoine, qui, vous savez, était le premier ermite dans les déserts d'Égypte et qui aurait utilisé la version copte de la Bible. Au IVe siècle, Pacôme ne savait pas le grec. Et pourtant, il lisait la Bible, donc on peut aussi penser que la Bible de Pacôme devait être la Bible copte. Dans la jeunesse de ce dernier, les conditions sociales étaient particulièrement difficiles, et quand on a prêché le christianisme en Égypte, les persécutions ont fait que beaucoup de chrétiens se sont réfugiés aussi dans le désert. Peut-être que déjà il y avait là premiers indices d'une traduction de la Bible qui ont été faites par ceux qui chrétiens persécutés qui se sont ainsi réfugiés au désert. Il est possible que ce soit sous les persécutions de Dioclétien notamment que l'Égypte ait élaboré cette version copte de la Bible. Parce que, à partir de l'époque de Dioclétien en particulier, la langue grecque a été de moins en moins utilisée en Égypte. L'examen de cette traduction montre son ancienneté et son indépendance des autres traductions. La Vulgate a peut-être mis en parallèle, si vous voulez, avec la version copte dans ce domaine-là. Et pendant longtemps, on a négligé l'importance de la version copte pour l'étude de la Bible. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir aussi cette importance-là. Et on remarquera que la version copte de la Bible ne semble pas avoir été écrite, n'avoir pas été traduite plutôt de l'hébreu mais du grec. Il ne faut pas s'en étonner, puisque la version des Septante a aussi été traduite en Égypte, et par conséquent, il était normal que les traducteurs de la version copte se réfèrent à la version des Septante. Mais les traducteurs de la version copte connaissaient l'hébreu. Et il existe aussi une autre version copte qui, elle, est faite d'après le texte massorétique, donc d'après l'hébreu. Et la version qui est faite à partir du grec à un certain nombre de corrections qui ont été introduites à partir de l'hébreu, ce qui montre bien que les traducteurs connaissaient l'hébreu. Et puis enfin, il y a une autre traduction qui est en dialecte qui était plus le dialecte parlé à Alexandrie et qui lui est beaucoup plus proche des 70. Après les versions coptes, il faut citer les versions éthiopiennes. La langue de l'Éthiopie est le gaez, on appelle ça le gaez, qui est une ancienne langue éthiopienne. Et l'église éthiopienne est en quelque sorte une branche de l'église copte, dans laquelle un certain nombre de particularismes ont été introduits. Mais l'Éthiopie a été évangélisée à partir de l'Égypte et a toujours vécu sur le plan ecclésiastique en osmose étroite avec l'Égypte, même si l'église éthiopienne était une église nationale qui avait ses particularités bien affirmées. Très vite, pour ces mêmes raisons, on a éprouvé le besoin d'avoir une Bible dans la langue locale, et c'est ainsi que vers 300 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, vraisemblablement, la Bible a été traduite en gaez. Ben Sira a été traduit au 7e siècle selon une tradition ancienne, il a été traduit depuis le grec. L'influence de la Bible hébraïque est incontestable. Ce qui n'est pas étonnant si l'on sait que l'Éthiopie, jusqu'à il y a peu, avait une importante minorité juive, les fameux Falasha. Et ces Falasha, jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce qu'ils émigrent en masse en Israël, comme on le sait, ne connaissaient pas l'hébreu. Et leur Bible était la Bible en langue gaez. Ils avaient la même Bible que les chrétiens, ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire des relations entre juifs et chrétiens. Bien entendu, ils ne lisaient pas le Nouveau Testament, mais pour ce qui est de l'Ancien Testament, ils utilisaient la même Bible. Il y a des mots grecs dans la Bible en gaez, ce qui prouve que si elle a été traduite de l'hébreu, Elle l'a été par des gens qui connaissaient également le grec. Tous les manuscrits anciens de cette version se trouvent tous en Europe et non plus en Éthiopie. Et en Éthiopie, il n'en existe que des copies. Il y avait eu des contacts avec l'Arménien. Les Bibles arméniennes aussi ont trouvé certaines influences sur la Bible en gaez. La langue gaez était la langue parlée, et parlée surtout par les moines, de telle sorte qu'il y a eu une grande diffusion de cette Bible parmi le peuple, parce qu'elle était très très compréhensible. La première édition moderne de cette Bible date de 1926 et la dernière de 1968. Elle a été reprise grosso modo, elle est encore comprise aujourd'hui par le peuple, donc ici il n'y a pas de problème. Le canon éthiopien est le plus riche de tous les canons en livres apocryphes. Et c'est ainsi que des livres comme les livres des Jubilés, ce qu'on appelle Enoch éthiopien, qui n'est connu nulle part ailleurs, n'est-ce pas ? L'Assomption de Moïse, l'Assomption d'Ezra, les livres de Baruch, la lettre de Jérémie, Tobie, Ben Sira, la sagesse de Salomon, l'Apocalypse d'Ezra, les visions d'Ezra, les prières de Ménaché, les ajouts à Daniel et d'autres psaumes, par exemple comme le psaume 151, se trouvent dans cette Bible-là. Alors voyez-vous, là on a une riche collection de livres apocryphes. Chose curieuse, les livres des Maccabées n'étaient pas connus par les Éthiopiens. Ils ne sont pas ajoutés à leur Bible, bien que ce soit des livres apocryphes. Toutes ces versions sont extrêmement intéressantes, et notamment pour l'étude, justement, des anciennes versions, telles que la version des Septante. Il nous montre l'évolution des différentes traditions juives, en particulier, dans ces différents pays. Autre traduction importante, les traductions arméniennes. L'Arménie fut le premier État à adopter le christianisme comme religion d'État. Et immédiatement après la conversion du roi d'Arménie, Ce dernier fit traduire la Bible en arménien. Et jusqu'à aujourd'hui, la Bible arménienne est la Bible officielle de la religion arménienne qui se confond avec la nation, n'est-ce pas ? La religion arménienne est également une religion nationale. Comme la plupart des églises orientales, la version arménienne de la Bible comprend de nombreux livres apocryphes et on peut dire que c'est vers 406 que cette Bible a été traduite, après que pour ce faire, on ait inventé un alphabet arménien. Une version arménienne a été traduite en syriaque vers 415 par des gens qui ont été envoyés d'Édesse pour étudier la Bible et l'art de la traduction, et qui ont ramené à Édesse des manuscrits grecs. Ils sont ensuite allés à Alexandrie pour apprendre le grec, et ainsi donc est née aussi une version syriaque de cette version arménienne de la Bible. C'est en 734 que le travail a été terminé, et cette même année, l'Église arménienne a fait de ce texte la traduction officielle de l'Église arménienne. Elle est basée sur la version des 70, puisque nous avons vu les rapports qu'il y a eu avec Alexandrie, et aussi sur la Bible d'Origène. Au XIIIe siècle après Jésus-Christ, on a rassemblé ces versions arméniennes, et elles ont été éditées d'une manière qui est disponible encore aujourd'hui, avec des apocryphes tels que Ben Sira, Baruch, les ajouts à Daniel et à Esther. Mais il existe aussi un autre canon arménien qui comprend les trois livres des Maccabées, alors que la Bible des Septante ne comprenait que deux, Tobie, la sagesse de Salomon, Ben Sira, la vie des prophètes, les visions d'Enoch, les visions d'Ezra, le quatrième Ezra, le testament des fils de Jacob, l'histoire de Joseph et d'Asnath. Donc un certain nombre de livres apocryphes qui ne sont connus nulle part ailleurs, si ce n'est par la traduction arménienne de la Bible. Maintenant, l'Église arménienne, officiellement, ne voit pas tous ces livres de la même façon. Et même s'ils sont dans son canon, ça ne veut pas dire que l'Église arménienne le reconnaisse la même autorité ni la même valeur. Au XIXe siècle, il y a eu une traduction protestante du Nouveau Testament en arménien qui a été effectuée. Disons également un mot des traductions arabes. Les Arabes ont été évangélisés relativement tôt. Non pas sur une grande échelle, malheureusement, ça aurait peut-être évité la diffusion de l'islam, la naissance et la progression de l'islam, mais des Arabes individuels se sont convertis, des caravaniers ou bien des gens qui ont été évangélisés directement en Arabie par les moines du désert en particulier. Tant et si bien qu'une Bible en arabe, des Bibles en arabe ont été traduites assez rapidement. D'autre part, il y a toujours eu dans les pays arabes d'importantes minorités chrétiennes qui ont donc lu la Bible en arabe. D'ailleurs, la langue arabe a été conservée et aujourd'hui donc à nouveau utilisée sur une grande échelle grâce aux chrétiens. La littérature arabe se basant sur la Bible et le fait des chrétiens arabes, et plus particulièrement au siècle dernier, l'université protestante de Beyrouth a été un grand centre de culture de la langue arabe. Le collège Saint-Joseph jésuite à Beyrouth a également accompli le même travail, cette fois-ci pour le compte des catholiques. Donc il existe, pour ce qui est des plus anciennes versions arabes, simplement des fragments qui nous sont parvenus, mais qui sont très nombreux, et qui montrent que différents groupes religieux en Arabie avaient chacun leur traduction. Maintenant, les fragments sont trop épars et trop peu importants pour qu'on puisse trouver la source de laquelle ils ont été traduits. C'est à partir du Haut Moyen-Âge que l'on a les traductions en arabe les plus complètes, des traductions complètes de la Bible. Or, chose curieuse, elles sont le fait des Juifs. Les Juifs, installés dans les pays arabes après la conquête, ont été arabisés de langue, n'est-ce pas ? D'ailleurs aussi, ils ont joué un rôle très important dans la promotion de l'arabe en tant que langue littéraire. Et ça, il ne faut pas non plus l'oublier, juifs et chrétiens. Donc les juifs à l'époque, au Moyen-Âge, les chrétiens à une époque beaucoup plus récente. Et la première traduction de la Bible en arabe date du 9e siècle après Jésus-Christ par Saadia Gaon, le grand rabbin dont nous avons déjà eu l'occasion de parler en histoire d'Israël. Et Saadia Gaon a ajouté ses commentaires à cette Bible. Les Juifs d'Arabie avant l'islam avaient aussi leur traduction. Ils avaient aussi le Nouveau Testament. qui avait bien entendu une fonction tout à fait moindre, mais les Juifs d'Arabie avaient une connaissance du Nouveau Testament. Et cette Bible en arabe était pour eux un pas nouveau dans le développement de la culture juive. Il s'agissait, par le moyen de cette Bible en arabe, comme ça avait été le cas pour les 70, de faire connaître la Bible à des gens qui ne connaissaient plus l'hébreu. Les Juifs d'Arabie n'avaient pas une très très grande connaissance des choses de la religion. Mais aussi, on entendait répandre cette Bible chez les non-juifs. Et il n'est pas impossible qu'un homme comme Mohammed ait eu des contacts avec, justement, ces Bibles arabes, qu'il connaissait très mal, qu'il cite très mal, qu'il cite de travers. Mais le Coran montre que le prophète avait une certaine connaissance de la Bible. Les traductions arabes sont écrites en caractères arabes. Il existe d'autres traductions en arabe, mais qui sont écrites avec des lettres hébraïques, n'est-ce pas ? Ça, il y a les deux qui existent à cette période-là. Ces Bibles ne sont pas une traduction littérale, mais beaucoup plus une paraphrase, un petit peu comme les Targoum. On trouve de telles Bibles aussi au Yémen, le Yémen qui était évidemment un pays arabe. Les Karaïtes aussi utilisaient des Bibles en arabe. Les Samaritains également, à partir du moment où l'islam est devenu prépondérant autour de Sichem, et les Coptes et les chrétiens aussi. Coptes, pour une raison évidente, parce que petit à petit, la langue arabe est devenue leur langue de tous les jours. Les chrétiens aussi, parce qu'ils vivaient évidemment dans un environnement arabe. Avec le temps, ces anciennes traductions arabes n'était plus comprise par le peuple, parce que ça n'était plus la langue parlée. C'était une langue littéraire, un petit peu comme la langue du Coran. Mais elle est encore utilisée, cette Bible, par les communautés orientales, tant juives que... enfin, les juifs jusqu'à ces dernières années. La dernière représentante des communautés juives, les juifs syriens des pays arabes, sont arrivés il y a 3 ans, n'est-ce pas ? J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans mon dernier voyage. Mais jusqu'alors, ils utilisaient ces Bibles à cause de sa grande antiquité, même si ce n'était pas la langue qu'ils parlaient exactement. Puis alors, évidemment, à une époque plus récente, on a des Bibles en arabe parlées, en arabe actuel, arabe moderne, dans les différents dialectes, d'ailleurs. La traduction de toute la Bible a été effectuée par les Coptes en arabe aussi en 1629, et elle comprenait aussi des apocryphes, par exemple les apocryphes d'Ezra, d'Enoch, l'Apocalypse d'Abraham, etc. Voilà, si vous voulez, pour ce qui est des traductions anciennes de la Bible. Il faudrait peut-être évoquer aussi les traductions en slavon qui ont été effectuées par Cyril et Méthode, les deux apôtres des pays slaves, n'est-ce pas, qui ont traduit tout de suite la Bible dans la langue des populations qu'ils évangélisaient, c'est-à-dire les populations slaves. Et pour cela, ils ont créé un alphabet spécial, qu'on appelle l'alphabet cyrillique, c'est-à-dire créé par Cyril, n'est-ce pas, et qui est encore aujourd'hui l'alphabet russe, par exemple, bulgare, comment ça s'appelle, les Serbes, etc., utilisent cet alphabet, n'est-ce pas. La traduction en slavon date du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge également. Elle contient les apocryphes aussi, d'ailleurs, notamment les apocryphes d'Enoch, l'Apocalypse d'Abraham, etc., etc. Donc nous en avons ici terminé avec les anciennes traductions de la Bible. Disons un mot maintenant des traductions modernes, si vous le voulez. La première traduction qu'on peut qualifier de moderne, nous en avons évoqué, c'est celle de Sadia Gaon, parce qu'il l'a effectuée en relation avec Ben Asher, la famille des Ben Asher, la famille de scribes dont nous avons déjà parlé, et puis l'éditeur de la Bible, Blomberg. Mais enfin, bon, ça c'est anecdotique, n'est-ce pas ? Les traductions modernes, ce sont essentiellement les traductions de la Renaissance. On pourrait évoquer d'abord la traduction de Tyndale en anglais, c'est la plus ancienne des modernes, si j'ose dire. Puis la traduction de Luther en allemand, sur laquelle nous sommes déjà arrêtés. nous n'y reviendrons pas. Lorsque l'Angleterre est passée au protestantisme, le roi Jacques a éprouvé le besoin d'une nouvelle traduction de la Bible. Il estimait que celle de Tyndale comprenait un certain nombre d'erreurs, et puis que déjà aussi son anglais commençait à être un peu vieillot. Et le roi Jacques a rassemblé les meilleurs spécialistes du royaume qui ont traduit donc la Bible. Et la version qui en a résulté s'appelle jusqu'à nos jours la King James Version, la version du roi Jacques, ou encore Authorized Version, version autorisée, parce qu'elle avait l'appui du roi, n'est-ce pas ? Cette Bible anglaise, cette Bible du roi Jacques, est à mettre sur le même plan que la Bible de Luther. La Bible de Luther est un monument littéraire de la langue allemande et a contribué aussi, d'ailleurs, à la promotion de la langue allemande dans une proportion qui n'est pas négligeable. Et jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sais, n'est-ce pas, un certain nombre de chrétiens allemands continuent à lire la Bible dans la version de Luther. La version du roi Jacques est une version qui, sur le plan de la langue, est aujourd'hui totalement dépassée. Et de moins en moins, elle est de moins en moins utilisée par les chrétiens anglo-saxons, anglais et américains. Elle est remplacée par des traductions beaucoup plus modernes. Mais elle est aussi un monument de la langue anglaise. Sur le plan beauté littéraire, sur le plan valeur de la traduction, n'est-ce pas, il est certain qu'elle reste inégalée sur le plan littéraire, n'est-ce pas ? Encore une fois, ce n'est plus l'anglais d'aujourd'hui, ce n'est plus l'anglais parlé. Et beaucoup aujourd'hui ont abandonné la version du roi Jacques, mais il y a 30 ans de cela, plus de 30 ans quand j'étais en Angleterre, la version du roi Jacques était encore utilisée par nombre de chrétiens anglais. Bon, ça commençait déjà à passer de mode et on commençait à voir la Revised Standard Version, qui est une version américaine d'ailleurs, qui est un petit peu l'équivalent en Angleterre et dans les pays anglo-saxons de la Bible de Jérusalem, c'est-à-dire une version scientifique qui est sans cesse remise à jour. Bon, il y avait des traductions modernes, genre français courant aussi, n'est-ce pas ? Bon, il est évident que dans les pays anglo-saxons, on a maintenant pléthore de traductions. Beaucoup plus qu'en France encore, n'est-ce pas, vu que là-bas, il y a évidemment des millions et des millions de chrétiens dans ces pays-là. Pour ce qui est des Bibles françaises, il faut citer la Bible de Livetan, qui fut la Bible de la Réforme. Puis les catholiques, au moment de la contre-réforme, publièrent aussi leur propre Bible, n'est-ce pas, sous la direction de Lemestre de Sacy. C'était la Bible qui était utilisée également par les jansénistes, n'est-ce pas ? Et puis, ensuite, n'est-ce pas, il y a eu des révisions nombreuses de la Bible de Livetan. Et puis, de nos jours, évidemment, il y a toutes les traductions modernes de la Bible. C'est un autre chapitre, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là ce soir. Peut-être je voudrais dire deux mots maintenant des éditions de la Bible. Et nous en aurons terminé avec ça pour ce qui est de l'Ancien Testament. Les éditions de la Bible sont évidemment très nombreuses, puisque la Bible, vous savez, est le livre le plus diffusé, donc le plus édité dans le monde. On sait que la Bible fut le premier livre à être imprimé en 1456 par Gutenberg. C'était la Bible latine, la Vulgate. Et 14 ans plus tard, apparut la première Bible hébraïque imprimée avec les commentaires de Rashi. C'était d'abord la Torah qui a été publiée sans ponctuation. Auparavant, la Bible était évidemment écrite à la main. Il faut dire que la Bible est un des livres les plus difficiles à imprimer parce que la Bible hébraïque, en tout cas, parce qu'il faut placer les points dans la bonne situation. Donc c'est un travail considérable que de faire une Bible hébraïque imprimée. Le premier qui publia la Bible hébraïque fut Yaakov Ben Chaim. Et cette Bible lui avait été transmise par Aaron Ben Asher. C'est donc le texte des Ben Asher qui a été imprimé le premier. Sans que cela ne change quoi que ce soit au sens du texte. Par exemple, c'est des différences entre l'écriture pleine ou l'écriture plus brève, la ponctuation qui ne touche que des choses tout à fait mineures et secondes. Plusieurs dizaines de milliers de petites différences existent d'une traduction, d'une édition à l'autre, mais sans que cela touche, encore une fois, en rien au sens du texte. 2 ans plus tard, à Bologne, ont été imprimés quelques versets seulement, qui ont été ponctués. Et en même temps, en Italie, deux éditions des psaumes sans points ont été publiées, puis ensuite la Torah avec des points et avec Rashi. Par exemple, les premières éditions de la Bible ne faisaient pas la Bible ponctuée, puisque les premières Bibles ont été imprimées sans ponctuation, c'était trop difficile. Et quand on a introduit la ponctuation, par exemple, dans les anciennes éditions de la Bible hébraïque, il n'y a pas de différence entre le patach et le kamatz, qui sont des signes. Ceux qui ne connaissent pas l'hébreu ne savent pas trop quelle est la différence entre ces signes-là. Finalement, c'est une manière différente d'écrire la voyelle A. Dans la pratique, ça ne change rien du tout, parce qu'on l'y a de toute façon. Mais enfin, si on veut être absolument puriste, il y a 2 signes différents pour écrire la voyelle A. Certainement, à l'origine, ça devait se prononcer différemment, un A fermé ou un A plus ouvert, peu importe, un A plus grave. En tout cas, toujours est-il que les premières éditions de la Bible ne faisaient pas différence entre ces deux lettres. En 1487, sont publiés à Milan 2 volumes des premiers prophètes et des derniers prophètes avec la ponctuation, mais sans les explications de Rashi. On appelle ça la Bible de Sansino, qui est une Bible encore très très prisée. Et puis ensuite, une autre Bible est publiée à Naples en 3 volumes avec justement les commentaires de Rashi. En Espagne et au Portugal sont aussi imprimées des Bibles, puisque l'Espagne et le Portugal sont des endroits où il existe de nombreux juifs, mais elles sont publiées sans point. Enfin, paraît la Bible complète de Sansino, avec la ponctuation, mais sans le targoum araméen, ni les commentaires de Rashi en un seul volume. Puis, à nouveau, une nouvelle version de Sansino est écrite sur 2 colonnes, sans point. C'est une des plus belles éditions de la Bible qui ait jamais été produite. La 3e édition de cette Bible est publiée à Brescia, en plus petit format, pour que tous puissent la procurer, et elle est répandue chez les juifs et chez les chrétiens savants. C'est l'édition que Luther a utilisée pour traduire sa Bible en allemand entre 1534 et 1588. Au début du XVe siècle, des savants chrétiens qui travaillent avec le pape Léon X publient une édition de la Bible en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. C'est un travail considérable qui occupe 6 volumes et qui va être publié entre 1514 et 1517 à Alcalá, en Espagne, près de Madrid, et qui porte pour cette raison le nom de Bible d'Alcalá. Elle est basée sur d'anciens manuscrits et d'anciennes impressions de la Bible. Elle comprend, pour ce qui est de la partie hébraïque, la ponctuation. En 1515, Van Bamberg, à Venise, établit la première édition critique basée sur la comparaison des différents manuscrits et qui comprend aussi les commentaires de Rashi. La version de Bamberg était, jusqu'à la Bible de Stuttgart, la version critique qui était utilisée par tous ceux qui voulaient faire des recherches sérieuses sur la Bible. Bamberg était un savant juif de Tunis. Il a travaillé sur le texte de Yaakov Ben Chaim, dont nous avons parlé tout à l'heure, pour publier une édition avec les commentaires et avec les targoums, avec la petite et la grande Massora. Il a ajouté et il a mis en marge les travaux de nombreux massorètes qui ont été repris jusqu'au siècle dernier dans ce qu'on appelle l'édition de Ginsberg, qui était une reprise justement de la version de Bamberg. À la fin du volume, il y a la petite Massora avec ordre alphabétique. Les différences sont indiquées entre les manuscrits de la famille des Ben Asher et des Ben Nephtali, de telle manière que ce texte deviendra le textus receptus de toute la communauté savante jusqu'à Stuttgart, n'est-ce pas, jusqu'à la Bible de Kittel, dont nous avons déjà parlé en son temps. Les éditions qui ont marqué jusqu'au XIXe siècle ont été des traductions, des éditions qui ont été basées sur ces différents manuscrits. Il faut citer aussi, par exemple, des traductions qui ont été publiées aussi avec beaucoup de soin par un certain nombre de gens. La plus célèbre pour ce qui est de la France est celle qui a été publiée par Robert Etienne, qui est caractérisée par la beauté des lettres, etc. La version d'Hambourg de 1593, qui est une édition critique également, etc., etc. Je passe sur les traductions autres. Les éditions scientifiques modernes, la première tentative de faire une Bible basée sur les documents anciens a été faite à Leipzig en 1897, à partir des manuscrits de Benacher, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup d'autres éditions anciennes. La Bible de Ginsberg, en quatre volumes, donc j'en ai parlé il y a un instant, a été publiée entre 1880 et 1905. En 1911, la Société biblique britannique pour la diffusion de la Bible a publié une Bible en consultant 73 manuscrits et 19 éditions anciennes. Et enfin, l'édition de Kittel a été commencée en 1902, à partir de l'édition de Leipzig, la sixième édition datant de 1913. La quatrième édition a été révisée en 1954, et avec le document d'Alep, en 1958, les savants de l'université hébraïque avaient récupéré ce manuscrit et ils l'ont intégré justement dans la version de Kittel. On en est donc là aujourd'hui, si vous voulez. C'est donc l'Hébraïka, ce qu'on appelle la Biblia Hébraïka de Rudolf Kittel. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire sur les anciennes versions de la Bible et aussi les versions modernes. Est-ce que vous avez quelques questions rapidement à poser là-dessus? Et puis, sinon, nous allons passer au Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des questions sur les versions anciennes? C'est de la légende, c'est de la légende totale. Seulement, l'intérêt, c'est que ce sont des textes juifs de l'époque intertestamentaire qui auraient été perdus si ces églises orientales ne les avaient pas préservés, parce qu'on ne les connaît nulle part ailleurs. Et ils sont intéressants aujourd'hui. Pendant tout un temps, on les a méprisés, on ne les a pas beaucoup étudiés. Aujourd'hui, il y a une redécouverte, justement, des écrits intertestamentaires. Ils sont intéressants parce qu'ils nous montrent quelle a été l'évolution de la pensée, non pas du judaïsme officiel, parce que ces écrits étaient, en quelque sorte, des écrits sectaires. C'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais été acceptés par le judaïsme officiel, justement. C'était des écrits marginaux de certains groupes apocalyptiques qui se mettaient à part dans l'attente du Messie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'était l'attente du Messie, justement, au travers de ces écrits à l'époque intertestamentaire. Et finalement, le milieu apocalyptique qui nous est plus familier maintenant au travers de ces livres apocryphes est le milieu dans lequel est né le christianisme, le Nouveau Testament. Un certain nombre de notions, n'est-ce pas, sont manifestement tirées de ces milieux-là. Par exemple, les gens de Qumran étaient des gens qui étaient proches de ces milieux apocalyptiques. Et on trouve à Qumran, justement, beaucoup de textes, par exemple les textes des Jubilés, les textes d'Enoch, les livres d'Enoch, qu'ils soient les Enoch slaves, les Enoch éthiopiens, les autres livres d'Enoch, ont des concepts qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, par exemple la notion du Fils de l'homme, l'expression le Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, d'après Daniel, etc. Enoch, qui est remonté au ciel, était considéré comme une préfiguration du Fils de l'homme qui s'assied à la droite de Dieu, selon ce qui est écrit dans le psaume 110, qui est le juge des derniers jours, qui est assimilé avec Melchizedek, n'est-ce pas? Finalement, Enoch ne serait autre que Melchizedek, le mystérieux personnage dont il est question dans le livre de la Genèse. On retrouve un peu ça dans l'Épître aux Hébreux. Bien entendu, le Nouveau Testament se dégage de tout ce qu'il y a de légendaire dans ces écrits apocryphes, mais des concepts, des notions, n'est-ce pas, qui sont celles du Nouveau Testament, sont apparues là. La notion de l'Antichrist, par exemple, de la guerre apocalyptique, etc. Bon, du royaume du méchant, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on trouve dans ces écrits-là. Hein. Et par exemple, il est difficile de faire une lecture du livre de l'Apocalypse sans connaître les apocalypses apocryphes, parce que finalement, le livre de notre Apocalypse canonique reprend un certain nombre de clés qui étaient des espèces un langage codé qui était celui de toutes les autres apocalypses. Et si on ne connaît pas ce langage codé, on a du mal à comprendre le livre de l'Apocalypse. Voilà, ça c'est l'intérêt justement qu'on trouve aujourd'hui dans l'étude de ces livres-là, sans pour autant évidemment le reconnaître ni un caractère historique, ni encore moins un caractère d'inspiration. C'est pas, bon, on sait que par exemple Jude cite l'Assomption de Moïse dans son livre. Bon, ça ne veut pas dire, comme l'ont cru un certain nombre de gens, même en milieu évangélique un peu naïf, que maintenant on va pouvoir se mettre à lire l'Assomption de Moïse comme un livre inspiré. Mais simplement qu'il y avait des choses que, inspirées par le Saint-Esprit, l'apôtre a reconnues comme étant parole de Dieu dans ces livres-là, c'est tout. Bon, ces livres-là aussi sont parfois très proches du Midrash. Le Midrash qui, lui, a trouvé un caractère officiel dans le judaïsme. Bon, on voit bien que là, il y avait un tronc commun, n'est-ce pas ? Et finalement, les livres apocryphes, les écrits de Qumran, le Midrash, donc les Targoum, et puis le Nouveau Testament ont un tronc commun, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a emprunt, il y a copie, il y a influence, n'est-ce pas ? Mais ils appartiennent au même courant de pensée, quoi. C'est tout simplement ça. J'ai entendu que le Nouveau Testament, en plus de ça, a dimension évidemment d'inspiration que ces livres-là n'ont pas. Et pourtant, auxquels ils prétendent. Oui, autre question ? Eh bien, parlons justement du Nouveau Testament. Nous serons beaucoup plus brefs pour ce qui est du Nouveau Testament que pour ce qui est de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, d'abord, est un livre beaucoup plus petit. Deuxièmement, il est beaucoup plus récent. Et par conséquent, il pose moins de problèmes historiques. On connaît beaucoup mieux, n'est-ce pas, le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous avons, pour ce qui est des écrits du Nouveau Testament, des textes très anciens qui datent de la deuxième moitié du deuxième siècle et peut-être même avant, si l'on en croit les découvertes récentes qui ont été effectuées par le professeur Tieckle. Donc dès la fin, semble-t-il, du premier siècle, c'est-à-dire pratiquement contemporain du Nouveau Testament, n'est-ce pas, nous avons donc des écrits. L'abbé Jean de Carmignac, qui était un grand spécialiste des manuscrits de Qumran, disait ceci: « Je connais Jésus aujourd'hui à peu près aussi bien que si j'avais été un juif vivant en Israël à la fin du premier siècle, parce que à cette époque-là, j'aurais pu avoir entre les mains justement ce qui était en gros l'évangile de Marc, n'est-ce pas ? Et j'aurais pu évidemment compléter ces informations qui nous sont données dans l'évangile de Marc par les récits des témoins oculaires. Finalement, ça n'aurait pas apporté grand-chose de neuf, grand chose d'important, à l'essentiel finalement qui nous est contenu dans les évangiles. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Les textes les plus anciens du Nouveau Testament complets, n'est-ce pas, datent à peu près de la même époque que ceux de l'Ancien Testament. Le plus ancien est le Codex Babylonicus, qui date de 916 après Jésus-Christ, qui est le plus ancien document complet du Nouveau Testament connu. Mais nous avons des papyri qui contiennent des fragments du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament non pas complet mais partiel, qui datent au moins de la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Il s'agit par exemple de ce qu'on appelle le papyrus Bodmer, qui contient des fragments de l'évangile de Jean en particulier, et puis des papyri Chester Beati. Bon, ce n'est pas de l'ensemble du Nouveau Testament, mais c'est très intéressant de comparer ces fragments sur papyrus. Bon, le papyrus est un matériau fragile qui se détériore, donc il n'est pas étonnant que nous n'ayons que des fragments du Nouveau Testament. Mais il est intéressant de les comparer avec les écrits du Moyen-Âge, les textes du Moyen-Âge, et de voir que précisément nous avons le même texte. Nous avons le même texte. Hein, c'est donc ici un texte fiable qui est entre nos mains. C'est ainsi, par exemple, que Eusèbe de Césarée a reçu de l'empereur Constantin, donc au IVe siècle, l'ordre d'organiser, de surveiller la copie de 50 Bibles complètes en grec avec Nouveau Testament. Et ce faisant, Eusèbe a publié ce qui devait devenir le texte standard, le texte officiel du Nouveau Testament dans l'Empire de Constantin, que l'on appelle pour cette raison le texte standard byzantin, puisque Constantin était l'empereur de l'Empire de Byzance. Ce faisant, il est devenu le texte unique du Nouveau Testament pour l'ensemble de la chrétienté byzantine, et par conséquent latine aussi, puisque à cette époque-là, Constantin régnait sur l'ensemble de l'Empire romain. Il y a d'autres... ce texte a été reçu par la chrétienté byzantine, mais pas par toute la chrétienté. Les églises orientales ont également conservé un certain nombre de bibles qui étaient... De textes du Nouveau Testament qui étaient les leurs, qui différaient très légèrement, très très légèrement parfois, n'est-ce pas, du texte byzantin. Néanmoins, le texte d'Eusèbe de Césarée était un texte très sérieux. Eusèbe a fait un travail extrêmement sérieux, rassemblant les manuscrits les plus fiables et les plus sûrs, n'est-ce pas ? Et alors que pour l'Ancien Testament, n'est-ce pas, nous avons des variantes qui peuvent parfois être relativement nombreuses pour un même verset, pour ce qui est du Nouveau Testament, ces variantes sont beaucoup plus ténues, tant et si bien que l'on peut aujourd'hui être sûr que nous avons un texte fiable du Nouveau Testament qui est proche de l'original à 99,9% à peu près, c'est-à-dire quasiment sûr. Par exemple, on a pu dire qu'aucun texte ancien n'est aussi sûr que le texte du Nouveau Testament. Ça, c'est absolument indiscutable et plus personne n'en discute. Au Moyen-Âge, on a utilisé, n'est-ce pas, des textes du Nouveau Testament en différentes langues. Donc il existe aussi des anciennes versions, comme c'était le cas pour l'Ancien Testament, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, les textes officiels sont publiés dans les grands onciaux, c'est-à-dire dans le Codex Chisianus, le Codex Vaticanus, le Codex Alexandrinus, et puis le Sinaiticus, n'est-ce pas ? Donc qui sont ajoutés à l'Ancien Testament, n'est-ce pas, avec les magnifiques lettres, les grandes lettres grecques, n'est-ce pas. Donc ici, nous avons un texte qui est très bien répertorié, très bien connu, n'est-ce pas. Ajoutons cela, donc, la Bible Angot de 392 après Jésus-Christ, qui contient aussi les anciennes versions, la Bible de Jérôme en latin. Bon, toutes les Bibles dont nous avons parlé, toutes les anciennes traductions contiennent à peu près tout le Nouveau Testament traduit de cette manière-là. La Bible d'Alcala, dont nous avons parlé tout à l'heure aussi, a été une Bible dans laquelle le cardinal Jiménez, qui était celui qui supervisait cette Bible, a fait un effort de critique du texte du Nouveau Testament, notamment à la suite des travaux d'Erasme. Erasme, vous savez, qui a été le premier à essayer de publier une version grecque du Nouveau Testament, et le cardinal Jiménez a basé sa traduction sur le Nouveau Testament d'Erasme, comme le fera d'ailleurs Luther pour ce qui est de la Bible allemande, n'est-ce pas ? La version du roi Jacques dont nous parlions tout à l'heure, elle, par contre, ne s'est pas référée au Nouveau Testament d'Erasme, mais à celui qu'avait utilisé Tyndale. Le maître de Sacy, qui à Port-Royal publie la Bible officielle du catholicisme français en 1640, le fait à partir de la Vulgate. Pour le récompenser de ses efforts, il sera en Bastillé, n'est-ce pas ? C'est la Bible qu'a utilisée Racine, par exemple, pour ses deux tragédies bibliques, celle d'Esther et d'Athalie. C'est un texte, finalement, qui est tronqué et qui n'est pas très sûr, qui n'est pas très fiable. Le Nouveau Testament, on a pu dire que c'était le chant du signe de l'Israël biblique, avant que cela ne devienne le texte de référence du peuple chrétien. Dès le IIe siècle, des Juifs ont traduit, ou plutôt ont publié le Nouveau Testament en hébreu. Nous savons que il existait des versions hébraïques du Nouveau Testament dès les origines. Et par exemple, dans les milieux nazaréens et ensuite dans les milieux ébionites, la grande Église, à partir du IVe siècle, quand elle voit combattre ce qu'elle considère comme des sectes hérétiques, n'est-ce pas, notamment en ce qui concerne les nazaréens, leur fera le reproche de lire le Nouveau Testament en hébreu. Et la bibliothèque de Césarée conservait un exemplaire du Nouveau Testament en hébreu, ou en tout cas de certains évangiles en hébreu. Et Jérôme, quand il a traduit la Bible en latin, est allé à Césarée pour consulter les anciens manuscrits du Nouveau Testament en hébreu qui existaient encore à cette période-là. Malheureusement pour nous, n'est-ce pas, ces versions en hébreu du Nouveau Testament ont disparu. Peut-être qu'on en retrouvera un jour, il faut le souhaiter, il faut l'espérer, mais pour l'heure, n'est-ce pas, ils ne sont plus disponibles. Les textes qui se rapprochent le plus, n'est-ce pas, de ces écrits sont les documents en syriaque dont nous avons parlé la dernière fois, et notamment la célèbre version Peshitto que nous avons aussi évoquée la dernière fois. Le Nouveau Testament, comment s'est-il composé ? Ça, parler du Nouveau Testament, c'est immédiatement parler de ce qu'on appelle le problème synoptique, en ce qui concerne les évangiles. Le problème synoptique concerne les trois premiers évangiles, celui de Matthieu, de Marc et de Luc, ne concerne pas celui de Jean. Et en même temps qu'il y a entre eux une très grande différence. Enfin, il y a des différences, peut-être pas une très grande différence, mais il y a des différences. Différence dans l'ordonnance des textes, différence dans l'agencement des péricopes. Certains événements sont omis par tel évangéliste et cités par tel autre. Il y a des textes, ou plutôt des logias de Jésus, des paroles de Jésus qui sont communes aux trois évangiles synoptiques. Il y en a qui sont communes simplement à deux des évangiles synoptiques, et ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui sont omis et qui n'appartiennent qu'à un seul des évangiles synoptiques. Donc il y a un problème de savoir, n'est-ce pas, comment, pourquoi ces ressemblances et pourquoi ces différences. N'est-ce pas ? Parfois, des mots sont changés, des expressions sont changées, ce n'est pas tout à fait semblable. Et finalement, là, on touche à ce fameux problème synoptique. Ce qui semble être, on explique cela par de deux manières différentes. D'abord, Jésus lui-même n'a rien écrit. Ça, c'est une chose certaine. Si ce n'est quand il était en contact avec la femme adultère, il écrivait sur le sol, mais ce n'était pas quelque chose qui nous a été conservé, bien entendu. Et Jésus, comme les rabbis de son temps, confier son enseignement à la mémoire de ses auditeurs. Et Jésus enseignait à la manière des rabbis de son temps, c'est-à-dire d'une manière qui soit facilement mémorisable. Par exemple, la parabole. Il est plus facile de se souvenir d'un enseignement à partir d'une parabole, à partir d'un récit pittoresque qu'on peut mémoriser facilement, que de mémoriser une doctrine abstraite. Et pourtant, par la parabole, on peut arriver à une conclusion qui peut être plus ou moins abstraite. Mais la parabole en étant le support. Jésus faisait aussi en sorte de résumer son enseignement par des maximes courtes, ciselées comme des diamants, n'est-ce pas ? Dont chaque mot était pesé et qui pouvait être aussi facilement mémorisable. Donc, il y avait tout un enseignement oral. Et selon un exégète comme Marcel Jousse, qui a beaucoup travaillé sur ce problème, n'est-ce pas, les différences qui peuvent exister entre les synoptiques viennent justement de ce fait que l'Évangile a existé d'abord sous forme orale et qu'un certain nombre de gens ont retenu un certain nombre de choses et d'autres des choses différentes. Exactement comme trois témoins voient le même événement, hein, ils en rendent compte de manière différente et en même temps semblable. C'est-à-dire que ce qui aura frappé tel et tel témoin, ce sera tel détail qui n'aura pas frappé l'autre. Mais ils vont être d'accord, les trois vont être d'accord sur les faits essentiels, mais ils vont varier sur les détails. Par exemple, si vous confrontez trois témoins qui sont victimes d'un accident de la circulation, ils vont tous être d'accord, évidemment, pour dire, ben voilà, la voiture A venait de telle direction, la voiture B de l'autre direction, le choc s'est produit de telle manière, etc. Et puis, tel témoin va vous dire, le conducteur de la voiture A, il avait une drôle de tête. Et puis le deuxième va dire, tiens, moi, ça ne m'a pas frappé du tout. Ben, par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, soudain, n'est-ce pas, j'ai entendu un bruit de frein. « Ah tiens, moi, ça ne m'a pas frappé », dira le deuxième témoin. « Ah, mais le troisième, moi aussi, j'ai entendu le bruit de frein », et ainsi de suite, vous comprenez ? Et au point de vue juridique, par exemple, les gens qui sont spécialisés dans les enquêtes, les juges d'instruction, les choses comme ça, n'accorderont pas de valeur à un témoignage qui serait absolument semblable. C'est-à-dire, si deux témoignages sont absolument semblables, c'est que les gens se sont concertés avant, et par conséquent, ces deux témoignages sont suspects. Par contre, quand on a justement l'accord sur l'essentiel et des divergences sur les détails, on dit, bon, mais ça, c'est juste, ça, c'est vrai. Et selon Marcel Jousse, finalement, nous serions ici dans un phénomène de ce type, c'est-à-dire une transmission orale qui est restée orale pendant un certain temps avant d'être mise par écrit. Bon, aujourd'hui, cette théorie de l'origine orale des synoptiques est un petit peu tempérée par des gens comme Flusser ou par ce qu'on appelle l'école de Jérusalem pour l'étude des évangiles synoptiques, rien à voir avec l'école des Dominicains de Jérusalem, ne pas confondre. Il semblerait que déjà à l'époque de Jésus, les disciples des rabbins avaient des petits cahiers sur lesquels ils notaient presque tout de suite, n'est-ce pas, les textes de l'enseignement de leur maître. Et il semblerait que les documents de base, en quelque sorte, qui sont devenus ensuite les évangiles, ont été écrits presque simultanément au moment où Jésus parlait. Peut-être pas tous, mais un certain nombre du moins. Et les travaux justement récents qui ont été faits sur des fragments des évangiles qui ont été trouvés à Qumran, en particulier sous la direction du professeur Tieck, n'est-ce pas, semblerait aller dans le même sens. Mais même s'il en est ainsi, l'intuition de Marcel Jousse n'est pas obligatoirement fausse, à savoir que même si ces textes ont été rédigés, mis par écrit presque instantanément au moment où Jésus a enseigné, c'est-à-dire que les disciples auraient pu prendre des notes pendant que Jésus parlait directement, n'est-ce pas ? Eh bien, là aussi, si on compare dans un cours magistral que fait un professeur, si je suis sûr que si je prends ici, il y en a qui écrivent, si je prends ici ce qu'écrit David, si je prends ce qu'écrit Philippe ou ce qu'écrit Joël, bon, ce sera en gros la même chose. C'est-à-dire, j'ai retrouvé en gros ce que je dis ce soir, mais dans les détails, ce sera différent. Tel va omettre tel détail de ce que je dis, tel sera plus frappé par tel autre aspect de ce que je dis et le notera, tandis que, ouais, et ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc ici, on a automatiquement des versions différentes, si vous voulez, des mêmes paroles de Jésus et des mêmes actes de Jésus. Maintenant, qu'il y ait un support oral, parce que tout le monde n'était pas capable de prendre des notes, et Jésus a certainement, l'intuition de Marcel Jousse est juste, n'est-ce pas ? Jésus a d'abord parlé pour la mémoire, même si ça a été écrit. Et c'est ainsi qu'on trouve dans l'enseignement de Jésus, par exemple, le parallélisme, qui est très utilisé dans le livre des Proverbes, et qui aussi a une manière mnémotechnique de mémoriser quelque chose. Le chiasme, le bilatéralisme, bref, toutes les techniques de mémorisation qui avaient été développées au fil des siècles par les rabbins. Maintenant, la langue du Nouveau Testament pose un problème. Le Nouveau Testament est écrit en grec, mais c'est un grec très particulier. C'est un grec qui est très très différent du grec classique, du grec de Démosthène ou de Xénophon ou des grands classiques grecs. D'abord, c'est un grec beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et ce grec-là, on n'en connaissait aucun équivalent nulle part, jusqu'à la découverte de documents qui montrent qu'il existait depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand dans tout le monde hellénisé un grec très simplifié un grec qui était celui de population dont le grec n'était pas la langue maternelle, mais qui était un grec qui était devenu la langue internationale de tout le monde ancien. Et ça, ça a continué sous l'Empire romain. La langue internationale, l'Empire romain, c'était le grec et non pas le latin. Même si c'était plus vrai pour la partie orientale de l'Empire. N'est-ce pas ? Ce grec porte un nom, dans ce que les historiens ont donné, le koiné. Ça veut dire le langage populaire. Et alors, on a pensé que le grec du Nouveau Testament était une forme particulière du koiné. Ce n'est pas, c'est certainement, il y a une part de vérité certainement dans cette affirmation-là, parce que c'est vrai que le grec n'était pas la langue des pêcheurs de Galilée, ni des habitants de Jérusalem auxquels Jésus s'adressait. N'est-ce pas ? Mais c'était une langue d'emprunt, en quelque sorte. Et néanmoins, des travaux plus récents ont encore affiné la proposition, notamment de gens comme l'abbé de Carmignac, notamment, c'était le cas à partir de la découverte des manuscrits de la Mer Morte. N'est-ce pas ? On s'est rendu compte que le grec du Nouveau Testament est un décalque, mot à mot, d'une servilité totale du texte hébreu qui est sous-jacent. Ça, c'est la grande découverte des savants israéliens, tels que Flusser, Safraï, Jean de Carmignac, qui n'était pas israélien, mais qui a beaucoup travaillé sur les manuscrits de la Mer Morte, n'est-ce pas ? Et que nous avons là une nouvelle langue. Le Nouveau Testament crée un nouveau dialecte du grec, qu'on pourrait appeler le grec hébreu, ou l'hébreu grec, je ne sais pas ce qu'on peut dire, n'est-ce pas ? Et quand on passe, par exemple, au livre des Actes, on a une langue tout à fait différente. On a un grec qui est beaucoup plus proche, par exemple, de la langue des 70, de la version des 70. Même chose quand on lit l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est l'œuvre d'un juif qui connaissait fort bien le grec, peut-être Paul, n'est-ce pas ? C'est écrit en 67, c'est-à-dire à l'époque où le Temple existe encore, ou va être détruit, n'est-ce pas ? Mais par contre, pour ce qui est des évangiles, c'est très différent. Et c'est tout à fait typique pour l'évangile de Luc, par exemple. L'évangile de Luc commence par un prologue, c'est-à-dire une dédicace à Théophile. Et Luc, l'auteur, explique les raisons qui l'ont amené à écrire son livre. Là, c'est écrit dans un grec parfait, un grec tout à fait classique. Et dès que Luc commence son récit, eh bien, c'est du petit nègre. C'est du petit nègre pour un grec. Mais pas pour un hébreu. Un hébreu retrouve sous chaque mot grec pratiquement un mot hébreu. N'est-ce pas ? Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament, les évangiles en particulier, avaient un tel respect pour les paroles de Jésus telles qu'ils les avaient reçues en hébreu. Et non pas en araméen, on verra peut-être pourquoi la prochaine fois. Que quand ils les ont traduites en grec, ils n'ont pas fait ce que font les traducteurs modernes, qui font de la contextualisation ou de l'équivalence dynamique, ils étaient aux antipodes de ça. Ils avaient un tel respect des paroles de Jésus, que même si ce n'était pas du bon grec, même si ce n'était pas du grec élégant, même si c'était à la limite un grec qui pouvait sembler étrange aux oreilles d'un grec bien né, mais ils ne se sont pas permis d'y toucher en quoi que ce soit, mais ils les ont translittérés tels quels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment grâce à la langue de Qumran, qui était l'hébreu parlé à cette époque en Israël, on peut retrouver, sous-jacent au texte grec, l'original hébreu. Je disais tout à l'heure, nous avons perdu l'hébreu, qui existait jusqu'à l'époque, en tout cas, de Jérôme, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons, jusqu'à un certain point, retrouver, c'est tout un effort, évidemment, de recherche extrêmement complexe. Par exemple, des gens comme le pasteur Lindsay, à Jérusalem, se sont livrés à cet exercice-là, avec plus ou moins de bonheur, ce sera encore certainement affiné. Mais le pasteur Lindsay a pu publier, il y a quelques années, un évangile de Marc retraduit, retrouvé. C'est pas une retraduction, si vous voulez, c'est un redécalque en quelque sorte de l'évangile en hébreu sous-jacent au texte de Marc en particulier, n'est-ce pas ? Alors c'est un travail extrêmement intéressant qui est fait là, parce que là, nous touchons du doigt vraiment les paroles mêmes de Jésus. Nous pouvons savoir ce que Jésus a pu dire. Je prends un exemple pour me faire comprendre. Le texte, le fameux texte de béatitude, la première béatitude, n'est-ce pas, qu'on traduit en français à partir du grec de cette manière suivante, « Heureux les pauvres en esprit ». Ça ne veut rien dire en français. Rien. À la limite, on peut comprendre quelqu'un qui est simple d'esprit, un petit peu dérangé, au point de vue mental. Et il est évident que ce n'est pas du tout ce que Jésus voulait dire. Ça ne veut rien dire en français et ça ne veut rien dire en grec non plus. Rien. Mais quand vous lisez les textes de Qumran, vous lisez dans le livre des hymnes, les hymnes d'action de grâce, cette expression que le Seigneur a caché sa pensée, l'auteur des hymnes bénit Dieu en disant « Je te loue », comme le fera Jésus d'ailleurs, parce que tu as caché les mystères de la révélation à ceux qui sont orgueilleux et qui ont un cœur hautain. Mais tu les as révélés aux aniés rouards, ceux qui sont pauvres en esprit. Et là, on retrouve exactement l'expression grecque « pauvres en esprit ». Si on traduit littéralement de l'hébreu, ça donne exactement ça. Aniés rouards, pauvres en esprit. Alors, dans le grec et dans nos langues à nous, ça ne veut rien dire. Dans l'hébreu de Qumran, ça veut dire les humbles, ceux qui sont humbles, ceux qui ont un esprit humble, ceux qui ne sont pas orgueilleux. Bon, eh bien, ça, si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne retraduisez pas cette expression en hébreu, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est un exemple sur des milliers, des milliers, des milliers. Alors ça, c'est un travail extrêmement intéressant qui est fait aujourd'hui et qui nous montre avec quelle précision, justement, les auteurs sacrés, eh bien, on traduit les paroles de Jésus, on retransmet les paroles de Jésus. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir, si vous voulez.